Info Club Sandwich.
Bonjour et bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, le 87.7 FM. Nous sommes le mercredi 4 février, pour la première fois de la semaine, il fait beau. C'est pour cela que vous retrouvez Léo, votre stagiaire préféré à l'animation. Aujourd'hui, je suis accompagné de Margot pour l'interview et d'Emmanuel pour faire un point budgétaire. Bonjour à vous deux.
Salut Léo, bonjour, bonjour.
Et avant de commencer, petit teasing, on recevra tout à l'heure la Super Mamie d'Amiens 2025 pour une chronique un peu spéciale. Mais pour l'instant, Margot, je te laisse présenter notre invité.
Merci beaucoup Léo. Alors aujourd'hui, on reçoit Julia Gray. Bonjour Julia.
Hello Margot.
Tu viens nous parler de ton histoire en poésie pour la sortie de ton recueil « I love a woman now », en français donc « Maintenant j'aime une femme », sous-intitulé aussi, « The gay awakening you didn't know you needed », donc l'éveil gay dont vous aviez besoin sans le savoir, enfin dont tu avais besoin sans le savoir. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter un peu ?
Oui, je suis super contente d'être ici. Merci en tout cas de me donner l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Et du coup, moi c'est Julia et j'ai en effet écrit un livre, c'est mon premier recueil de poésie. Et j'ai décidé de faire ça totalement toute seule et de sortir de façon indépendante. Donc encore une fois, merci de laisser la place aux petites voix et aux petits auteurs comme moi. Qui n'ont pas souvent la chance d'être à la radio. Donc,
ouais. On est là pour ça. D'abord, est-ce que tu peux me dire aussi pourquoi avoir choisi ce titre « I love a woman now » ?
Ça, c'est venu au début d'une blague avec ma copine, où on s'est dit comment les gens pourraient comprendre aussi rapidement que possible ce sur quoi ce livre, de quoi il parle. Et au final, en réalité, il y a plutôt un mot qui est important dans le titre, c'est le « now »,« I love a woman now ». Et c'est en réalité... pour parler de différentes choses, notamment que c'est une sorte de transition. Et tout le livre, ça parle de ça, d'une transition émotionnelle, d'une transition dans une identité. Et au final, I love a woman, c'est j'aime. D'abord, c'est un livre sur l'amour, en premier lieu. Après, une femme, c'est un livre qui est écrit sur une femme. C'est elle, ma source d'inspiration. Et now, c'est pour justement montrer cette transition dont on parle dans tout le livre.
Désormais, c'est autre chose.
Voilà.
Pourquoi est-ce que tu as choisi de l'écrire principalement en anglais ? Parce que certains sont traduits vers le français. Est-ce que ces poèmes qui sont traduits vers le français, c'est aussi pour pouvoir parler à plus de monde ?
Alors en réalité, c'est un livre qui a seulement 4 poèmes en français et j'en ai proposé avec des traductions de certains en anglais, mais ces poèmes qui sont en français ont été écrits en français en premier lieu.
D'accord.
Et pourquoi j'ai écrit le recueil en anglais ? Simplement parce que les poèmes me venaient en anglais. J'adore cette langue, je l'ai étudiée, j'adore les auteurs anglophones. Et au final, je me suis dit, j'aimerais bien quand même qu'il y en ait qui restent en français. Donc il y en a un seul qui n'a pas été traduit, c'est le tout premier poème que j'ai écrit à ma copine du coup, Mathilde. Ce poème-là, je ne voyais pas le traduire. Donc c'est assez mitigé, pourquoi est-ce que je l'ai fait, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait. Je me suis juste dit, fais ce que tu as envie de faire. De toute façon, c'est ton livre, tu peux y faire ce que tu veux dedans. Voilà, c'est pas réellement pour toucher plus de gens parce que je pense que ceux qui viendront le lire parlent principalement en anglais, mais c'est juste que certains ils demandaient à rester en français en fait.
Parce que ça parlait plus comme ça, c'est tout.
Parce qu'ils sont sortis comme tels.
Ils sont sortis comme ça.
Et donner une donc c'est moi qui les ai traduits, donc faire une traduction par l'auteur c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas souvent, mais c'est surtout parce que je voulais que la voix elle reste dans la langue maternelle dans laquelle elle a été écrite pour ces poèmes-là et que le reste n'y soit pas impacté. Et c'est pour ça que les traductions ne sont pas mot pour mot, c'est vraiment des traductions qui sont plutôt incarnées. De toute façon, tout le livre est assez incarné et il devait rester comme ça, en fait, cela.
Donc, est-ce que tu accepterais de nous lire ce poème ? Donc, c'est le poème Phénix, je crois.
Oui, ça, c'est un poème qui est vraiment le tournant du livre. C'est un peu toute la thèse du livre qui parle, au final, de... ma relation avant, parce que j'étais dans une relation hétérosexuelle pendant 8 ans, et la rencontre, en fait, avec cette femme qui a été un changement total pour moi et qui, en une semaine, j'ai changé ma vie totalement.
Bien, on t'écoute.
Donc, il s'intitule « Phénix ». Nous n'étions pas une histoire faite d'alliances et de vœux, mais le temps nous avait liés d'un fil silencieux. L'enfant qu'on a fait m'a laissé pleine de joie et d'émoi, et l'amour que l'on a connu repose doucement là. Mais le silence a fleuri le jour où on l'a laissé partir. Une seconde graine que l'on n'a pas pu laisser grandir. Et quelque chose en moi s'est brisé dans ce refus. Une corde rompue, un cœur vidé, confus. Je pleure l'homme qui a marché mes jeunes années, sa force tranquille, sa façon de calmer mes marées. Pas de fin amère, juste l'entropie du temps, deux âmes quittant leur forme d'antan. Et puis son rire, comme le matin sur ma peau. Mathilde, lumière sauvage, chaos, chant et flambeau. Elle a réveillé l'endroit où l'amour s'était enfoui et a osé aimer ce que même moi je fuyais sans bruit. Comme c'est étrange, pleurer et s'épanouir d'un même souffle, ressentir un manque tout en dansant dans une autre boucle, bercer le chagrin, renaître pourtant dans cette mort et voir l'ancien se dissoudre dans son corps. Alors qui suis-je, les mains à la fois pleines et nues, mère, amante, promesse figée en plein vol inconnu, femme divisée mais fidèle à sa voix la plus douce, le crépuscule dans un œil, l'autre vers l'aube à couper le souffle.
Alors tu t'ouvres au monde avec ces écrits, tu livres ton histoire et ton intimité aussi bien à ta famille qu'au reste de ton entourage. Tu parles de ta fille, des choix de vie, comme on a pu l'entendre, que tu avais fait dans le passé et ce que tu as fait aujourd'hui, de Mathilde. Et pour en avoir lu un certain nombre, c'est vraiment très touchant, comme ton parcours. Tu m'avais dit aussi que c'est une poésie qui cherche moins à expliquer qu'à faire ressentir. Qu'est-ce que tu veux dire par là et est-ce que tu peux redécrire un petit peu ce que tu viens de lire?
Oui, alors c'est exactement ça. Je ne veux pas que ce soit un livre qui soit nécessairement engagé politiquement, même s'il l'est. Il est écrit pour être être totalement ressenti en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi la poésie aussi, parce que la poésie, elle est faite pour te faire ralentir, elle est faite pour te faire explorer ce que tu ressens. Et j'ai écrit de façon assez sensorielle, de façon assez journalistique. Et au final, c'est une histoire que l'on suit à travers les sens, à travers le corps. Et c'est des poèmes que l'on ressent principalement dans le corps avant de les comprendre dans la tête, en fait, si tu veux. Et j'avais envie que ça reste comme ça à travers toute la trame des poèmes. Il y en a trois qui sont assez engagés parce qu'au bout d'un moment, ben, l'intime se connecte au collectif. Et au final, on ne peut pas ne pas parler de tout ce que ces femmes, ces hommes ont fait dans le milieu queer, dans le milieu de l'amour au final, et de nous laisser nous exprimer et aussi de voir qu'il y a d'autres routes, d'autres chemins qu'on ne voit pas forcément et qui peuvent être absolument parfaits pour nous. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Donc,
Et est-ce que ça t'a permis aussi d'aller de l'avant et d'aborder certains sujets comme l'avortement avec plus de légèreté à travers la poésie?
Ouais, donc comme on l'entend dans le poème Phénix, en réalité, ma relation d'avant, elle prenait déjà plus ou moins fin dans une sorte de vie qui partait dans différents sens entre lui et moi. Et il y a eu cette histoire, oui, d'avortement dans lequel je parle dans certains poèmes et qui a été assez difficile. Et au final, dans une relation, peu importe qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle, il y a toujours cette sorte de connexion et de choix de vie qui doit être commune avec les deux personnes. Et c'est ce qui est le plus difficile à tenir dans une relation, c'est de se dire qu'on avance dans le même sens. Et avec cette envie, moi, de garder notre enfant, lui de ne pas le garder, au final je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait une rupture entre nous qui était au-delà de ce que l'amour peut garder en fait.
Et qu'est-ce que ces poèmes t'ont permis de ressentir? Comment est-ce que tu te sens actuellement alors que le recueil paraît dans quelques semaines?
À l'origine, les poèmes sont des poèmes qui ont été écrits pour ma copine. C'était pour mon amoureuse. Ils étaient totalement personnels et c'est en les lisant à des amis où ils m'ont dit « Non mais attends, tu devrais en faire un livre, c'est super. Les gens devraient écouter et devraient pouvoir ressentir ce que tu mets dans les poèmes. » Et ça a été, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que ça t'a permis de guérir un petit peu? Oui, forcément. Mais plus que ça, je me suis dit « Et si quelqu'un pouvait s'identifier aussi à mon histoire à travers les poèmes. » Parce que moi, j'ai pas grandi en écoutant ou en entendant parler autour de moi nécessairement d'histoires comme celle-ci. Et c'est parce que au fur et à mesure, j'en ai découvert, j'ai réussi à voir un petit peu qu'il y avait que en fait la vie elle était pas si simple, si normative et que il y avait plein de façons d'avoir notre propre vérité et de la laisser apparaître. Et j'avais envie de donner ça aux gens parce que c'est, même si c'est un recueil de poésie qui est très intime et qui au final est écrit et centré sur mon histoire, elle peut parler à d'autres personnes et les gens peuvent facilement s'identifier à ce qui est écrit dans ces poèmes. Excuse-moi, je sais plus la question du coup.
La question c'était qu'est-ce que ces poèmes t'ont permis de ressentir. Donc tu nous l'as dit finalement. Et comment tu te sens avant la sortie de ton recueil.
Ouais, ils m'ont fait ressentir beaucoup d'amour
aussi. Qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile pour toi à coucher sur le papier, tu dirais?
En réalité, les écrire, c'était pas si difficile que ça. Ce qui a été assez difficile, c'est de se dire, je les mets au vu de tous, en fait. Et c'est ça, je pense, la raison pour laquelle si peu de personnes en parlent, c'est parce qu'on a toujours peur du jugement, on a toujours peur de comment est-ce que ton histoire va être prise. Et c'est aussi ma version, avec mon filtre, avec mon prisme à moi, que j'écris. Et la vérité, je suis pas trop pro, il y a une vérité commune à tous, mais en tout cas, ça, c'est ma vérité. Et je pense que beaucoup d'autres personnes peuvent s'identifier à cette vérité-là et peuvent avoir le même vécu. Maintenant, comment je me sens à l'idée que tout le monde puisse entendre parler de mon histoire d'amour, excitée, parce que franchement, c'est génial de lire l'amour. En général, c'est ce que j'aime le plus lire, c'est ce que j'aime le plus regarder. Je pense que c'est ce qui fait bouger le monde dans toutes les directions possibles. Après, un peu anxieuse à l'idée que mes proches puissent le voir, mais c'est pour ça que c'est aussi écrit en anglais. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront les comprendre. Après, si on ne parle pas nécessairement anglais, maintenant on a tellement de façons de pouvoir traduire. Et c'est pas un livre qui est aussi gros que tu ne puisses pas comprendre ce qui a été écrit dedans. Et j'espère que ça va bouger un petit peu les mentalités autour de moi et se dire que y a rien de grave en fait dans le fait d'aimer, que ce soit une femme, un homme ou même trans, enfin peu importe en fait, peu importe qui tu es.
Et peu importe le schéma familial aussi.
Et peu importe le schéma familial, ça a été assez révélateur pour moi parce que j'ai quand même grandi dans une maison où on m'a dit peu importe qui t'aime, c'est pas très grave, on s'en fiche. Mais en réalité, quand ça t'arrive,
c'est pas forcément la même chose.
Et on se rend compte aussi des différences générationnelles. Enfin, moi, je sais que ça n'a pas été pris de la même façon par les grands-parents, des parents ou des amis. Et il faut être patient, il faut être dans la compréhension. Et c'est pour ça que j'ai écrit avec énormément de tendresse plutôt que de colère. Et c'est ce que j'avais envie qu'il transparaisse le plus dans les poèmes, c'est cette sorte de tendresse qu'il faut garder en soi pour pouvoir parler de sujets qui pourtant peuvent faire mal en fait. Et ça, on le voit beaucoup dans mon poème qui s'appelle Congratulations Your Daughter's Gay, qui veut dire félicitations, ta fille est homo quoi. et ça parle de ça, ça parle de comment ça a été vécu par certains membres de ma famille, comment j'ai pu être reçue aussi, et au final ce que moi je veux en dire de tout ça. C'est que les mentalités peuvent changer et quand on s'aime, et dans la famille, normalement, on s'aime et ça devrait être la chose principale qui régit les réactions qu'on peut avoir par rapport aux décisions de tout un chacun.
C'est vraiment une histoire pas comme les autres. Comme tu le disais aussi, en plus, tu as été dans une relation hétéronormée pendant plusieurs années, qui donc du coup, c'était comme un basculement pour toi, parce que c'était nouveau, ça t'était jamais arrivé avant aussi.
Non, et puis tout le monde était assez choqué, parce que, je vais pas vous décrire mon ex-conjoint, mais c'était quand même quelqu'un qui était très très masculin, très fort, qui représentait à peu près tous les stéréotypes de l'homme en fait. Et de changer ça et de passer à une femme, c'est vrai que ça a choqué pas mal de gens. Je me souviens, la première fois, j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit, écoute, je crois que je suis tombée amoureuse d'une fille, je sais pas trop quoi faire et tout. Et elle m'a dit, venant de toi, ça ne me surprend pas. Plus rien ne me surprend.
Donc bon. Et tu revendiques donc les droits queer à travers tes poèmes, en exprimant aussi le regard des autres, comme tu viens de le dire, sur tes choix amoureux, mais aussi à travers des vidéos sur TikTok, réseau sur lequel tu partages ton quotidien de maman avec ta chérie aussi, parce que donc c'était tout nouveau pour toi. Est-ce que tu as pu en discuter avec des personnes qui avaient eu des expériences similaires à la tienne ?
Ouais, et c'était un petit peu le but des réseaux sociaux aussi. C'était de pouvoir partager cette sorte d'intimité et aussi d'histoire et de me dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir se connecter à moi, se connecter à cette histoire et me parler en fait, parce que il y a quelque chose d'assez, enfin qui t'isole en fait du reste du monde à partir du moment où tu prends des décisions qui sont plus dans la norme. Et ça, je le voulais pas. Je voulais à tout prix pouvoir me trouver une sorte de communauté. Et j'avoue que dans la communauté queer, en fait, je me suis trouvée énormément de ressemblances, des gens qui sont assez ouverts d'esprit, qui sont assez libérateurs en final dans la pensée et dans la façon d'être. Et j'adorais en fait. Je me suis rendu compte que c'était that was my people.
That was my people, c'était là qu'elle était ta place. Ouais. Qu'aurais-tu à dire en plus à nos auditeurs sur ton livre et sur le message que tu veux faire passer à travers tes poèmes?
Le principal message, je pense, parce qu'il parle de rupture, il parle d'amour, il parle d'identité. Et il parle de ta vérité. Et je pense que c'est ça qu'il faut savoir écouter à un moment donné, c'est que peu importe ce que le monde t'a montré jusqu'à présent, peu importe ce que les gens peuvent ressentir par rapport à tes choix, au bout d'un moment, tu as l'autorisation. Et tu as l'autorisation de suivre ce que tu as réellement envie de faire, de la façon dont tu as envie d'aimer. Et il faut prendre cette décision qui pourtant parfois peut pas... Enfin, est assez difficile à faire. Tu te dis, mais tu peux rester dans une relation pendant longtemps en te disant, non, mais en fait, je peux pas y aller parce que je vais faire du mal à l'autre, je vais me faire peut-être du mal à moi, je suis pas sûre, je doute, etc. Et c'est ok de douter, c'est ok d'avoir peur, mais au final, il y a une sorte, c'est tellement libérateur de décider de suivre ce que tu ressens réellement et de t'écouter. Parfois, c'est difficile de s'écouter, hein, de se dire bah, qu'est-ce que je ressens vraiment, est-ce que c'est vraiment ça ou pas, et de suivre ce chemin-là, peu importe ce qui va en être dit. Donc, c'est ça que j'aimerais leur dire, c'est tu as le droit, tu as la permission de ressentir des choses qui sont différentes et de vouloir les ressentir pleinement et de vouloir explorer ce chemin-là qui pourtant n'est pas forcément un chemin qui t'a été montré depuis le début.
Et donc du coup, merci beaucoup, c'est moi, c'est très beau. Avant de terminer l'interview, est-ce que tu peux nous dire aussi où on peut suivre tes actualités sur les réseaux, etc., ton site également, et où est-ce qu'on peut retrouver ton livre ?
Oui, alors le livre est principalement au début vendu en ligne via mon site internet qui s'appelle Julia Gray Poetry. Et vous pouvez aussi le retrouver normalement en librairie. Je suis en discussion encore avec certaines librairies à Paris, mais il y en a une pour l'instant qui s'appelle Les mots à la bouche, qui est d'accord pour ce projet et je les remercie grandement par rapport à ça. Mais sinon, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et TikTok, comme quand t'en as parlé, sur Julia Gray Poetry. Et si jamais vous avez écouté l'interview, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adore discuter avec vous. Envoyez-moi votre histoire.
Et donc, pour rappel, ton recueil de poèmes « I love a woman now » sort en librairie et sur ton site, du coup, le 27 février.
Oui, c'est ça, le 27 février. Je vous attends.
Merci beaucoup pour cette interview, Julia, c'était super.
Merci à vous.
Léo, c'est à toi.
Emmanuel, donc, qu'as-tu à nous dire sur le point budget cette semaine ?
Eh bien oui, vous croyez que c'était fini, mais non, la saga budgétaire continue. On pourrait presque dire « tout ça pour ça ». Après des mois de débats souvent stériles, le gouvernement a présenté un budget qui connaît assez peu d'évolution finalement en comparaison de son projet initial de l'automne dernier et il l'a fait adopter avec la procédure dite du 49-3, c'est-à-dire sans débat parlementaire. Nous avons donc, depuis lundi soir, un budget. On pourrait aussi se réjouir, car le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce dispositif qui finance en bonne partie votre radio préférée et toutes les autres radios associatives, a été à peu près rétabli à son niveau des années précédentes. Mais, car il y a un très gros mais, les budgets de la culture, en particulier le soutien à l'emploi et le soutien à la création, sont durement touchés par ce budget. Et plus globalement, comme nos invités le disaient le 10 décembre en particulier, mais aussi toutes ces dernières semaines sur nos antennes, l'ensemble des activités associatives sont fortement impactées. Et si l'on veut une société qui ne se fractionne pas encore plus, si l'on ne veut pas ouvrir la voie aux partisans d'une société de la peur, de la concurrence entre tous, du repli sur soi généralisé, nous avons besoin des associations, besoin des acteurs culturels et besoin des médias de proximité. Non pas d'une version étriquée, que va amplifier ce budget, mais au contraire d'une version joyeuse, collective, présente à chaque coin de rue, en ville comme à la campagne, au coin de chaque bois et dans chaque oreille. Nous y contribuerons à notre petite échelle. Vous en retrouverez l'écho sur nos ondes encore cette année, et aussi longtemps que votre énergie le permettra, avec les moyens que nous aurons. À tout de suite sur la radio pour venir parler de vos envies, de vos initiatives, de la culture que vous aimez, et restez à l'écoute. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh, oh. En haut du cimetière, dans l'allée.
regarder tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux, on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style?
Speak my mother tongue, 'cause I got my own style, you got your own style. So listen, I got my own style, you got your own style.
Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux.
Existe-t-il un autre style?
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, le 87.7 FM, à l'écoute d'Info Club Sandwich. Et on vient d'écouter Dusty Man de Sol et Charlie Winston. Comme annoncé en début d'émission, place maintenant à la chronique autour de la Super Mamie d'Amiens 2025, Daniel Fontaine, que j'ai eu le plaisir de recevoir à la radio.
Après le succès de l'élection nationale de Super Mamie à la Comédie de Picardie le 7 décembre dernier, qui a couronné la 29e lauréate Anna Maria Chortea Marti, candidate des Hautes-Pyrénées, c'est déjà l'heure de préparer l'élection de Super Mamie Amiens 2026, qui se tiendra le 8 février à 14h30 à la salle Valentin à Huy. Pour en parler, qui de mieux que de recevoir notre Super Mamie Amiens 2025, Daniel Fontaine, bonjour à vous.
Bonjour.
Déjà félicitations Daniel, donc vous êtes la Super Mamie d'Amiens 2025. Avant cette aventure, est-ce que vous connaissiez le concours ou c'était plutôt une découverte ?
C'était la deuxième fois que je me présentais. Donc la toute première fois, c'est vrai que c'était pas évident parce que j'ai appris ma demande. Enfin, on m'a fait la demande 2 jours avant. Et donc, très difficile pour préparer les petits-enfants et les enfants à cette élection.
C'est dans quelle année justement la première ?
2024.
Pour la deuxième fois, qu'est-ce qui vous a donné envie de reparticiper ?
Bah, le fait que j'avais pas pu préparer le concours tranquillement, donc j'ai téléphoné au comité, disons, 3-4 mois avant, et ils m'ont dit que je pouvais me représenter, donc là, ça a été pour moi plus facile pour préparer tout le monde.
Il n'y a pas forcément d'inscription limitée, on va dire.
Non.
Je veux dire, on peut retenter si jamais.
Oui, okay. Sauf si on gagne.
Oui, évidemment. Comment justement s'est passée la journée de l'élection, donc pour votre deuxième participation ? Entre les présentations, les enfants, les petits-enfants ?
Bah déjà, c'est en amont, donc faut préparer les enfants, faut préparer son challenge, faut préparer la séquence émotion et la séquence présentation qui se fait par son propre enfant. Donc la présentation, c'est notre enfant qui le fait. Ensuite, la séquence émotion, on ne doit rien savoir, mais c'est le petit-enfant qui prépare tout de son côté. Et après, nous, on a notre challenge. Et moi, mon challenge, en l'occurrence, je l'avais, enfin, avec mon petit-fils. on s'était arrangé pour voir ce qu'on pouvait faire, parce que moi j'adore chanter. Donc on a fait une chanson de L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. C'est lui qui a décidé la chanson et donc voilà, ça s'est fait tout simplement.
Oui, bon, en plus ça me permet de revenir dessus. Si je ne dis pas de bêtises, vous faites partie, enfin vous êtes membre d'une chorale, donc Cœur du Nord, c'est bien cela?
C'est ça.
Est-ce qu'il y a un moment donc, qui vous a particulièrement ému ou marqué durant cette élection?
C'est la séquence émotion. Mon petit-fils a fait pleurer, a fait monter les larmes au jury, moi-même aussi. C'est vraiment une séquence émotion qu'on peut ressentir franchement très très fort.
Oui, c'est un beau moment. Pour revenir dessus, le concours met beaucoup en avant la transmission entre générations. Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être grand-mère aujourd'hui?
Ah ben, c'est plus la grand-mère qu'on avait il y a 30 ans ou 40 ans en arrière. En fait, on est beaucoup plus près de nos petits-enfants, on fait des choses que, en fait, avant, on n'aurait jamais fait avec les enfants. Aller au cinéma, par exemple, faire les boutiques. Enfin, on a une cohérence assez, assez profonde entre nous.
Est-ce que vous aviez des valeurs que vous souhaitiez faire partager?
Ah oui. En fait, la bienveillance, surtout. Le rapprochement avec les personnes qu'on ne connaît pas tout autour de nous. Et c'est un concours qui m'a mis en avant sur toute l'année.
Depuis votre élection, votre quotidien a changé. Il me semble que vous êtes devenue ambassadrice de la ville d'Amiens. Avant l'élection aussi, donc, j'ai lu que vous étiez bénévole au Resto du Cœur et donc membre d'une chorale, donc Cœur du Nord. Est-ce que c'est aussi en rapport avec les valeurs que vous souhaitiez transmettre au quotidien?
Non, pas du tout. Et ça a complètement changé ma vie, en fait. Parce que j'étais très réservée au départ et le fait de me retrouver ambassadrice d'une ville où il fallait que j'apporte des choses de moi-même et j'ai été au-delà des choses parce que j'ai beaucoup de remerciements de la part de certaines personnes. Mais être ambassadrice, c'est énorme.
Ça demande beaucoup de responsabilités ou c'est juste surtout au niveau de l'expérience?
C'est au niveau de l'expérience, ça donne des responsabilités aussi. Mais j'aime bien, quand je suis bénévole quelque part, j'aime bien m'investir à fond. Et ce qui fait que je me suis énormément investie.
Et justement, comme une grand-mère pourrait être investie pour ses enfants et petits-enfants.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Et donc, pour finir, donc, l'élection 2026 donc, aura lieu le 8 février à la salle Valentin à Huy, comme je l'ai dit en début de chronique. Qu'est-ce que vous diriez aux grands-mères qui se sont présentées? De vivre l'instant présent?
Voilà, de vivre l'instant présent, de rester elles-mêmes. Et si elles peuvent donner un peu d'elles-mêmes pour cette élection, enfin pour cette période d'un an qui va rester avec eux, et elles représenteront la ville tout comme moi, et j'espère qu'elles seront prêtes à donner ce qu'elles peuvent.
En tout cas, merci Danielle d'être venue aujourd'hui.
Merci.
Et pour rappel, l'élection de Supermamie Amiens 2026 se tiendra le 8 février à 14h30 à la salle Valentin à Huy. Donc si vous souhaitez avoir un mot à dire sur l'élection, venez les rencontrer afin de voter pour votre candidate préférée. C'est sur réservation et l'entrée est gratuite. De plus, la gagnante de la Star Academy 2005, Magali Vahey, aura l'honneur en plus de chanter sur scène. Donc c'est une belle occasion de venir ce dimanche.
Et c'est sur ce bel événement que se referme votre InfoClub Sandwich du jour. Mais restez bien avec nous. Juste après, je vous propose un nouvel épisode de Fréquence Féministe. Pour ce troisième numéro, on vous a préparé pas mal de choses, mais je ne vous en dis pas plus. De mon côté, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée au forum Prête-moi ta blouse à Simus Santé qui s'est tenu le week-end dernier. En attendant, on se quitte avec Every Planet We Witch Is Dead de Gorillaz. Très belle journée sur Radio Campus Amiens. Are bad.
hit a man, I love the girl, but God only knows it's getting hard to see the sun coming through.
Depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange, tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes.
Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc, mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Féministe.
Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Bienvenue dans Fréquence Féministe, c'est déjà le troisième épisode de votre quotidienne qui couvre le festival Amiens Europe Féministe Future. Aujourd'hui, avec moi, il y a Julien. Salut.
Bonjour.
Et Léo.
Bonjour.
Et oui, il nous fait de l'ASMR.
On continue sur le Fréquence féministe.
C'est parfait. Je vois que vous l'avez bien dans la peau, c'est excellent. Pour cette troisième émission, du coup, ce n'est plus Léo à l'animation. Voilà, il rend son tablier. Non, je blague, il reviendra après-demain, du coup, pour la dernière. Aujourd'hui, on va parler d'une exposition qui s'appelle Mouvementement. Et Julien, du coup, tu es allé à la rencontre des étudiants et étudiantes du Master Art Plastique à l'Université de Picardie-Jules Verne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus?
Exactement, en fait, on a une exposition qui se tient à la Maison de la Culture, mais aussi à la Galerie Totem, qui est au niveau de la cathédrale. Et c'est une exposition qui porte le nom de Mouvementement, qui est aussi l'ouvrage d'Emma Biget, qui est donc une philosophe et danseuse, qui est l'artiste associée à ce projet pour les masters 1 et 2 en art plastique à l'Université Picardie-Jules Verne. Et leur projet, c'était donc de partir de cette œuvre, de ces réflexions philosophiques, et de créer des œuvres, tout simplement. Et j'ai pu rencontrer notamment deux étudiantes qui suivent le parcours, qui sont en Master 2, qui ont pu proposer leurs œuvres dans l'exposition.
Et ben avant qu'on s'écoute cette interview que tu as faite avec les étudiants et étudiantes, je propose que Léo, tu nous expliques peut-être un peu cet ouvrage, parce que je sais que tu as fait quelques petites recherches autour du livre d'Emma Biget.
Oui, exactement. Déjà, tout d'abord, c'est Mouvementement éco-politique de la danse, donc sorti en 2023. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça propose une réflexion puissante et intéressante en philosophie de danse sur les ponts entre pratiques dissidentes du mouvement et activisme écologique. Donc, c'est en fait, ce livre, il est nourri par la pensée queer et... On va dire que Emma Biget, elle éclaire la possibilité d'inventer des mondes élargis et d'autres types de relations. Donc, on se rend pas, en fait, dans ce livre, on se rend pas forcément compte de tous les mouvements qu'on réalise au quotidien. Et c'est justement ce que Emma Biget, en fait, elle propose dans son essai. Ça montre la manière dont certaines formes de danse tentent de mettre en place des, on va dire ça entre guillemets, des antidotes. À l'anesthésie. Au final, en fait, on se rend compte que la danse, elle pourrait bien avoir à jouer un rôle crucial dans les luttes écologiques,
Parce que pour se rendre capable de danser, il faut s'éveiller en fait, à tous les mouvements qui nous bougent et sans qu'ils soient agis par notre volonté. Donc là, par exemple, je dis ça, la respiration, ça peut être le flux du sang, les mouvements inconscients des yeux, la paupière qui bouge, l'attraction de la terre, la croissance et le pourrissement aussi des végétaux et l'intervention des animaux. Donc en fait, plein de questions. En tout cas, je vous invite à découvrir ce livre qui porte sur plusieurs réflexions.
Eh bien, maintenant, c'est le moment de s'écouter l'interview de ces étudiants et étudiantes qui ont accepté de répondre à tes questions, Julien.
Tu vois, là j'ai un trou de mémoire, et il m'a dit, ok, après, donc là il est rentré au bled, il est rentré au bled, et moi, finalement, je suis revenu en France, après, avec tout ça, je retourne chez Rocamat, j'étais encore célibataire.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec deux étudiantes de l'UFR des Arts d'Amiens qui sont en spécialité arts plastiques et elles participent à une exposition qui s'appelle Mouvementement en référence au livre de la philosophe et autrice Emma Biget.
C'est ça.
Donc en ce moment, dans le cadre du Féministe Futur Festival, on a une exposition qui se tient à la fois à la Maison de la Culture d'Amiens et puis
à la Galerie Totem.
Exactement, à la Galerie Totem.
Qui est sur le parvis de la cathédrale.
Première question, comment est venu ce projet? Comment vous avez commencé à travailler dessus? Donc c'est vos enseignants qui vous ont imposé le thème. Comment ça s'est fait?
Ouais, c'est ça. En gros, tous les ans, en Master 1 et Master 2, c'est pareil. On a un livre toute l'année et on travaille dessus. L'année dernière, on avait deux expositions. C'était sur un livre de Samir Boumediene et là, c'est cette année sur Emma Biget. Et du coup, on fait une exposition bisite, cette fois, pas en deux fois comme l'année dernière. Et on travaille toute l'année sur ce sujet du livre. Et on doit faire un travail plastique aussi dessus. On prend ce qu'on veut du livre et on fait un travail à partir de ça.
Et toutes les œuvres, donc pour l'avoir visité, toutes les œuvres sont vraiment différentes. Il n'y en a pas une qui se ressemble, mis à part la couleur bleue qui revient à plusieurs moments. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de chacune de ce que vous avez présenté comme œuvre, ce qu'on peut voir?
Alors du coup, juste pour remettre un peu de contexte, donc chacun part du livre et se l'approprie et donc doit le mettre en lien avec sa propre pratique personnelle. Donc moi, mon travail, c'est Trajectoire domestique, qui se trouve à la Galerie Totem. C'est cinq plaques d'acrylique transparente qui, donc sur chaque plaque, on retrouve un parcours d'insectes qui est à mon domicile ou qui a été. Et en fait, je les filme pendant une certaine durée. Donc un cloporte, ça va être beaucoup plus court qu'une araignée qui va durer des heures. Je projette les vidéos et je retrace en fait le parcours sur la plaque. Et donc elles sont mises les unes devant les autres pour tout simplement qu'on puisse les voir, enfin voir la place qu'ils prennent dans dans mon appartement et les voir en même temps individuellement.
Et moi, du coup, je suis à la MCA, donc dans Giacometti, et j'ai fait l'installation qui est tout au fond de la pièce où c'est une table, enfin un bureau d'enfant qui est entrouvert. Enfin, il y a un petit, je sais pas comment expliquer, un coffre à l'intérieur de la table qui se soulève et c'est entrouvert. Et à l'intérieur, on voit éclairé par une petite lumière qui vient d'en dessous un dessin que j'avais fait quand j'étais enfant. Que j'ai retravaillé avec des images que j'ai trouvées sur internet en libre service et du coup je parle, enfin le rapport avec le livre, c'est Emma Biget qui dit il y a des mouvements en moi qui ne sont pas de moi et du coup c'est, j'ai voulu parler de cet enfermement qu'on vit à l'école parce que c'est on passe tous par là, mais ça peut être aussi autre chose. Enfin, l'apprentissage de la vie quand on est enfant. Quand on est enfant, on a un monde en nous qui est bien plus riche que ce qu'on peut avoir à l'école en restant assis sur une table et sans pouvoir bouger. Et du coup, voilà, j'ai voulu parler de ça.
Et dans...
c'est le monde à l'intérieur de la table qui est installé. Voilà.
Justement, dans la notice, vous parliez de cette droiture, enfin cette posture qu'on vous oblige à adopter et là il y a vraiment cette idée du mouvement parce que au final enfin la Emma Biget est aussi danseuse
ouais,
du coup il y a vraiment cette importance du mouvement
ouais.
Parce qu'elle parle d'éco-mouvement, c'est ça le terme,
ouais, éco-politique de la danse, ouais. Okay. C'est le terme qu'elle utilise le plus.
Et ça se traduit comment, enfin c'est
compliqué à expliquer. C'est assez conceptuel. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément eu le temps encore de lire le livre. On feuillette, on a par exemple un cours, on a un séminaire avec des profs où on nous donne des passages qu'on étudie ensemble, on en discute, mais on n'a pas tous eu accès vraiment au livre encore. Je sais pas toi si t'as... Pas tout. Mais ouais, c'est la question de l'humain dans son mouvement et dans son mouvement dans le sens sa façon d'être au monde. Et du coup, ça passe forcément par le mouvement. Et puis...
Le corps en général. Oui, je voulais dire le corps en général. C'est-à-dire que, enfin, comment on se sent dans notre corps, comment on est aussi par rapport, enfin, au reste du monde finalement.
Dans ce rapport au corps et à l'espace, justement, comment vous avez construit l'espace architectural, si on peut dire, de cette exposition. Est-ce que vous avez donc visité le lieu d'abord, ou comment l'espace, en fait, tout simplement, comment c'est choisi je vais mettre mon œuvre ici, les autres ici, moi je vais la suspendre. Comment vous avez imaginé cet espace collectivement, du coup?
En fait, les lieux, on les connaît en général quand on est en master, parce qu'en licence, on a l'occasion d'aller voir des expositions. Et nous, c'est la deuxième année aussi qu'on expose. Donc on connaît le lieu. Après, en fonction de chaque travaux, chacun est libre de choisir un endroit. Et après, c'est un échange de... c'est des compromis, quoi. Chacun donne une idée de l'endroit où il aimerait accrocher. Et si c'est possible, on le fait, mais en fonction de ce qu'il y a autour et tout, pour qu'il y ait quand même une cohérence dans l'exposition.
Ouais, et en plus, du coup, comme je disais tout à l'heure, là, on est sur les deux sites en même temps, alors que l'année dernière, par exemple, on avait une exposition, on était 30 personnes au même endroit. Et du coup, là, cette année, ce qui est bien, c'est qu'on a... Et en plus, ça va bien avec le thème du livre, c'est qu'on a beaucoup plus d'espace, on est moins serrés les uns avec les autres. Donc, c'est ça qui est cool cette année, je trouve, par rapport à l'année dernière. On a vraiment pu plus prendre en compte l'espace, quoi, et moins tout accumuler. Il y a plus, on peut plus se mouvementer dans l'exposition. Donc ça, c'est bien.
Et comment, combien de temps en fait ça prend de construire une exposition comme celle-ci?
Là, du coup, c'est dès la rentrée, les profs nous donnent le sujet du livre, et après, on a de septembre, fin septembre à décembre, pour commencer à faire notre projet, en discuter tous ensemble. Toutes les semaines, on se voyait avec tous les étudiants, et voilà.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de croiser son travail à d'autres moments, que ce soit son travail artistique ou lors de conférences, par exemple?
Donc, on l'a rencontré lors d'une conférence à la fac de droit. Donc, c'était il y a déjà quelques mois. Et donc, c'était une conférence. C'était pas une conférence sieste, je ne pense pas. Mais par contre, on avait une espèce de méditation qui a été amenée par Emma Biget.
Vous pouvez aussi s'asseoir sur scène avec elle. Enfin, sur scène, là où elle était pour parler. Il y en avait plein qui sont allés s'asseoir avec elle. Et du coup, il y avait un peu ce truc de discussion ensemble, et aussi avec le public. Mais elle voulait vraiment que ça ne soit pas une conférence où il n'y ait que elle qui soit au milieu. Et ouais, du coup, c'était intéressant. Il y avait une vidéo qui était projetée aussi en même temps. Une vidéo de pieds vus d'en dessous, si je ne me trompe pas, qui est sur une plaque, et on voyait ses pieds. Et du coup, ça rappelait forcément le sujet du livre. Avec
Puis la danse en général.
Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du care, du coup, dans ce qu'elle propose de prendre soin de soi entre les uns et les autres, les unes les autres, mais aussi entre nous et l'espace, et comment on habite l'espace.
Oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'elle ne veut pas trop hiérarchiser, en fait, le public et elle-même. Et là, on avait vraiment... Enfin, on pouvait tous et toutes aller sur... Enfin, c'est pas vraiment une scène, mais...
Devant. C'était un amphi avec... elle était au milieu, en bas, là où les profs sont, du coup, d'habitude. Mais... Et aussi, du coup, ça me fait penser que la vidéo qu'elle projetait, du coup, on voyait des pieds vus d'en dessous, c'est... elle appelle ça une danse, une micro-danse, je sais plus comment elle appelait ça exactement, mais c'est quand elle nous a fait faire une méditation. En fait, on devait se mettre debout et relâcher notre corps, et du coup, on sentait que nos pieds... qu'on se penchait. Et même dans l'immobilité, en fait, il y avait une sorte de danse. Et du coup, elle parlait de ça, de la méditation. Le corps qui danse, même s'il ne danse pas comme on pourrait le penser vraiment. Enfin bref.
Oui, une certaine manière de mettre en mouvement le corps sans que ce soit perceptible que ce soit ouais. forcément de la danse, c'est mais il y a quand même un mouvement.
Et la prise de conscience du corps dans l'espace.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Comme promis, après cette super interview, voilà, Julien, tu nous as préparé une petite chronique autour des Forces Vives qu'on a été voir lundi soir.
Les Forces Vives est un spectacle de la compagnie Animal Architect, mis en scène par Camille Dagen et Emma Depoix qui signe la scénographie. Sur 3h30 environ, les artistes déplient les pages de la vie de Simone de Beauvoir. Sa figure se démultiplie au fil du temps, incarnée par plusieurs actrices, dont Hélène Morelli, Marie Deporteur, Camille Dagen et Sarah Chaumette. Les spectateuristes sont conviés à traverser sa bibliographie, puisque le spectacle repose sur divers ouvrages autobiographiques, comme Le Deuxième Sexe, Cahier de Jeunesse, Mémoire d'une jeune fille rangée, La Force de l'âge et La Force des choses. On peut d'ailleurs voir ici un clin d'œil au titre du spectacle. La première partie se centre principalement sur son éducation et sa construction en tant que femme dans un foyer baigné de religion, où il est difficile de sortir du cadre imposé et de s'émanciper. On y voit une Simone prête à tout pour lire les pages d'ouvrages interdits par ses parents ou chantonner des chansons frivoles en cachette. Nous assistons également à l'immersion de la jeune adulte dans le monde des intellectuels entre Merleau-Ponty et Sartre. Cette première traversée de la vie de l'autrice, bien qu'un peu longue, nous transporte avec des airs de vaudeville dans le passé de l'écrivaine. Après une courte entracte, le spectacle reprend, mais le rideau ne s'ouvre pas. Les artistes sont prostrés devant le velours noir face au public. Dans une choralité mimétique d'Internet, les comédiens-comédiennes ouvrent des onglets, parcourent des articles, des commentaires Instagram et nous font même revivre des interviews d'époque sur la sortie du Deuxième Sexe. Ce moment clé du spectacle nous donne à voir le regard critique porté tantôt à l'époque, tantôt à notre ère sur Simone de Beauvoir. La controverse est soulignée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas question de déboulonner le combat de Simone de Beauvoir en minimisant son impact, mais de souligner certains faits. Le spectacle reste cependant très court et évasif sur le sujet, c'est pourquoi il est nécessaire à mon sens d'ouvrir une petite parenthèse pour vous en dire plus. On peut se demander pourquoi s'intéresser à la figure de Simone de Beauvoir en 2026 ? Comment se réapproprier une œuvre majeure pour le féminisme quand on sait par ailleurs que Simone de Beauvoir est une figure controversée, complice de pédocriminalité et coupable de discrimination lesbophobe à l'égard entre autres de Monique Wittig, grande figure féministe ? Comment mettre en avant une figure aussi importante pour le mouvement de libération des femmes et ses prises de position sur la guerre d'Algérie, tout en étant conscient et consciente des actes de l'autrice sous la complicité de Jean-Paul Sartre, qui vont à l'encontre de son engagement ? Les Forces Vives s'inspirent en particulier de « Mémoire d'une jeune fille rangée », un ouvrage qu'elle publie en 1958. En 1993, Bianca Lamblin, celle que Simone et Sartre surnommaient Louise Védrine dans leurs écrits épistolaires, publie « Mémoire d'une jeune fille dérangée ». Faisant directement écho au roman de Simone de Beauvoir, l'ancienne élève y relate son grooming subi par le couple d'intellectuels. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme grooming, c'est tout simplement le fait de solliciter des enfants à des fins sexuelles, notamment avec un rapport d'ascendant quand on est un adulte et qu'on va voir des enfants, en l'occurrence ici des élèves. Dans l'ouvrage, Bianca Lamblin écrit « Tout en elle respirait l'énergie. L'intelligence de son regard, d'un bleu lumineux, nous frappa dès le début. À 16 ans, on est facilement ébloui. Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeune fille une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Celui qui était le plus laid, le plus sale, mais aussi le plus gentil et suprêmement intelligent, c'était Sartre. Je sus immédiatement qu'il était l'amour de sa vie. Entre nous, lui a-t-il dit, il s'agit d'un amour nécessaire. Il convient que nous connaissions des amours contingentes. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Cependant, il n'est pas question de dénigrer le deuxième sexe et toute la théorie féministe encore importante aujourd'hui développée par Simone de Beauvoir, mais bien de souligner des actes. Le but n'étant pas d'aller contre le mouvement féministe et les idées qu'elle a pu apporter, puisque dans le deuxième sexe, elle pose les bases d'une réflexion sur la liberté, l'aliénation et l'émancipation des femmes qui fait toujours écho à notre ère. Il faut ainsi prendre du recul au risque de glorifier une figure qui, de son vivant, a dépassé certaines limites. Après cette parenthèse, revenons sur le spectacle qui traverse tout de même 50 ans d'histoire, de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Algérie. Il est donc difficile de tout traiter dans les moindres détails. Durant la seconde partie de la représentation, les artistes s'attellent à La Force des choses, un autre roman de Simone de Beauvoir, évoquant principalement la guerre d'Algérie. le trouble autour du mot génocide, qui n'est pas sans faire écho à notre ère des années 2020, et notamment l'affaire Djamila Boupacha, est brillamment mise en lumière. On nous présente ainsi le déni et le refus d'une prise de conscience des faits à travers l'irrationalité de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, et de l'autre côté, les mots de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir sur les tortures infligées à la jeune femme. Cette même partie du spectacle souligne très justement le bouleversement politique et social que fut le passage à la Ve République. C'est sur ces mots que je terminerai ma chronique. Si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur le spectacle, le mieux c'est d'aller le voir. Vous trouverez par ailleurs une liste de documents à consulter sur Simone de Beauvoir si ça vous intéresse sur le site de Radio Campus Amiens. Et moi, personnellement, je vous recommande la lecture de « Mémoire d'une fille dérangée », l'ouvrage de Bianca Lamblin.
Merci Julien pour cette chronique, c'était super intéressant et comme tu l'as dit, tous les liens des articles seront mis en ligne dans celui de l'émission d'aujourd'hui. C'est le moment de passer à la suggestion littéraire, comme depuis le début de la semaine, on vous propose de découvrir une série de livres par les différentes associations qui étaient présentes dimanche à la Maison de la Culture d'Amiens. Et aujourd'hui, donc, on vous propose de découvrir celui d'Éloine, qui a choisi un livre qu'elle a autopublié.
Nous sommes avec Éloine de l'association Divergeor. Et Éloine, je vois que tu es venue avec un livre. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Salut. Oui, du coup, avec plaisir. Du coup, je suis venue avec un livre qui s'appelle « Jamais vous n'irez dans mes poches », du coup, qui est un recueil de poésie que j'ai écrit en 2024. Qui, du coup, donc un livre que moi j'ai écrit et qui est illustré avec un ami qui s'appelle Lizo Liagre, donc, qui est un illustrateur sur Amiens. Donc on est tous les deux amiennois, amiennoises. Et du coup, je vais vous parler un petit peu du livre, qu'est-ce qu'il raconte et comment est-ce qu'il a été confectionné. Du coup, « Jamais vous n'irez dans mes poches » donc est un recueil de poésie qui raconte en fait un parcours de transition de genre autour d'une thématique du coup, qui est celle des poches, du coup un peu du vêtement de manière générale, mais du coup qui reprend en fait cette idée de cacher en fait des textes ou des poèmes dont on a un petit peu honte ou des choses comme ça dans nos poches. Et donc en fait à travers donc cette idée du coup du vêtement et de la poche et de cette accumulation, on va suivre du coup des textes qui racontent du coup comment est-ce que le fait d'écrire et à force en fait l'accumulation de textes et cette envie d'écrire va petit à petit amener à s'interroger en fait sur son genre et du coup entamer une transition par en fait pour libérer l'écriture entre concurrence de moi parce que du coup je raconte mon parcours. Donc c'est comment le fait d'écrire de manière plus en plus abondante et ce besoin d'écrire va aboutir nécessairement à une transition de genre pour pouvoir exprimer encore plus du coup cette écriture.
Et justement dans cet ouvrage, il y a pas seulement du texte, il y a aussi des images comme vous l'avez précisé. Et comment en fait ces images et ce texte dialoguent ? Est-ce que les dessins ont été faits avant ? Est-ce que l'écriture était faite avant ? Enfin, est-ce que vous avez écrit avant ? Ou plutôt, est-ce que c'était un dialogue entre images et texte ? Et comment parfois les images peuvent traduire au-delà des mots, ce que vous essayez de transmettre dans ce texte.
Initialement, du coup, le texte, moi, je l'avais écrit donc toute seule dans mon coin, en l'occurrence au début de mon parcours. Je l'avais fini, mais je savais pas quoi en faire. J'avais jamais trop osé, me dire en fait que je pouvais l'envoyer en maison d'édition ou des choses comme ça. Je le considérais pas, donc je l'avais mis de côté. Ce que j'ai pas précisé, mais du coup, c'est un livre qui a été auto-édité. Donc on a fait ça à deux avec mon ami et en fait c'est lui qui est venu me contacter parce que je publiais des textes sur mon compte Insta. Il aimait bien ce que je faisais et du coup il m'a dit « Hey, ça te dit on fait une collaboration pour quelques petits posts ?» Et moi je lui ai dit « Bah si tu veux j'ai 120 pages de poèmes, est-ce que tu veux qu'on travaille autour de ça ?» Et donc on a commencé à travailler autour de ça. Donc on a vite fait une sélection en fait des textes qui on trouvait pouvaient être illustrés et les illustrations ont été faites autour de cette idée. En fait chaque illustration représente en fait une créature qui du coup vient illustrer en fait le poème parce qu'en fait l'idée du poème est très personnifiée dans les textes et c'est presque comme un personnage en lui-même qui du coup se manifeste de plein de manières différentes et donc on a eu cette idée de vouloir représenter le poème en fait du coup sous forme de petites créatures toutes plus ou moins différentes avec systématiquement une poche de représenter au sein d'illustrations pour du coup ramener à la thématique un peu centrale de la poche et du vêtement dans le livre. Et donc du coup ça se fait petit à petit dans cet ordre là jusqu'à qu'on arrive, je crois qu'il y a 16 ou 18 illustrations pour 38 poèmes. Donc c'est un assez gros bébé parce qu'il y a quand même 120 pages au total. Et du coup, voilà.
Dans ce qui sort de ses poches, il y a ces créatures qui en sortent. Et est-ce que ça ne vient pas aussi défier toute cette expression de freak qu'on a souvent utilisé de manière péjorative en fait sur les personnes trans?
Oui, complètement. Enfin, du coup, dans les illustrations, il y a tout un travail justement pour représenter ces petites créatures en fait avec des espèces de marqueurs de genre un peu bizarres. Enfin, par exemple, du coup, mon ami Lizo aime beaucoup faire des espèces de grands cils, forme de liner très exagérés ou avec des ongles très pointus, un petit peu dans l'univers un peu du drag, des trucs très exagérés, mais aussi de manière un peu plus soft ou masculine. Enfin, c'est assez varié. Il y a vraiment tout type de créatures. Ça va des kangourous à des pots de fleurs, à des oiseaux, à des anges qui tombent, à des chronomètres aussi. Et du coup, il y a toujours une volonté de faire sortir ce côté un petit peu freak, parce que justement l'idée de sortir de l'intimité de la poche, c'est aussi du coup une espèce de liberté de soi-même, j'accepte que je vais être bizarre, que je vais être considéré comme bizarre, et du coup ça va se manifester de différentes manières, donc à la fois dans les textes, dans les écrits, parce qu'il y a aussi tout un travail du coup autour des textes qui sont écrits avec une typo au neutre, donc qui du coup a été faite par un collectif qui s'appelle Bye Bye Binary en l'occurrence, qui propose tout un tas de typographies non genrées. Donc il y a aussi toute cette application en fait et cette réflexion autour du langage pour du coup avoir des poèmes du coup un peu fric, pour prendre ce que tu disais, mais du coup relier des illustrations qui elles-mêmes sont aussi un peu fric. Donc la thématique de la transidentité, elle n'est pas que narrative, elle se retrouve aussi vraiment dans la forme en fait des textes et des illustrations, et ça vient vraiment du coup dialoguer entre les deux pour raconter un petit peu cette histoire, parce qu'il y a aussi tout un espèce de parcours en fait d'affirmation de soi au fur et à mesure des textes.
Merci. Une dernière question, justement, où est-ce qu'on peut le trouver cet ouvrage?
Alors malheureusement, j'ai vendu, enfin du coup je l'ai auto-édité en 100 exemplaires qui sont, enfin ont tous été vendus maintenant, mais il y en a un du coup qui est disponible à la bibliothèque de la Citadelle, bibliothèque universitaire en l'occurrence, donc du coup qui est en libre accès sur place, mais également empruntable vous êtes inscrite en tant qu'étudiant, étudiante ou pas. Et là peut-être, enfin il y a des réflexions sur le fait d'être réédité, parce que enfin moi-même du coup je commence à envoyer un manuscrit pour un second recueil de poésie, mais du coup la question se pose de peut-être éditer l'exemplaire, parce qu'il y a toujours des, je vais à plein de gens, enfin qu'il y a des gens qui aimeraient bien. Là, typiquement on est en stand et le fait d'en parler, ça motive des gens à vouloir le lire, donc la question se pose, mais en tout cas actuellement le plus simple c'est d'aller sur Amiens, bibliothèque de la Citadelle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et voilà, Fréquence Féministe touche à sa fin pour cette troisième émission. Vous avez quelque chose à dire avant que je parle de l'agenda culturel?
Fréquence. Le running gag.
Je sais que tu as été beaucoup touchée par l'interview avec Aliénor.
Oui, c'était très très intéressant de pouvoir être au plus proche de sa réflexion, puisqu'on a eu cette interview mardi matin qui a été très intéressante et que vous pouvez réécouter en replay sur Radio Campus Amiens. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'écouter. Et justement, cette performance L'Océan, elle est visible cet après-midi à 15h, mais également à 19h30. Et je vous invite franchement à aller la voir, parce que c'est une invitation à parcourir notre perception de l'espace, de nos sensations, et également de développer notre toucher. C'est interactif, et c'est aussi, si vous avez des enfants et notamment des bébés, c'est un spectacle dans lequel on convie les plus jeunes, en fait, simplement.
Et tu l'as dit, donc c'est à 15h et à 19h30, et si vous nous réécoutez à 18h30, vous pourrez toujours aller voir la séance du soir. Il y aura également Made in Finland à 20h au Cirque Jules Verne. Nage libre à 19h30, c'est une pièce de théâtre qui se joue à la Comédie de Picardie. Ça, c'est pour ce soir. Et pour demain, il y a encore plein de choses pour découvrir le Festival Féministe Futur. Il y a à 12h15 la séance Encore et tous les jours, qui est un programme de court-métrage d'animation présenté par Jeanne Poulain et Elena Smart. Vous retrouvez encore une fois Made in Finland, qui est rejoué à 20h toujours au Cirque Jules Verne. Nage libre est encore joué aussi à la Comédie de Picardie à 20h30. Ça vous permet du coup, si vous avez raté les premières représentations de ce soir, d'aller les voir finalement ce jeudi. Et on termine avec un spectacle de danse au Grand Théâtre à la Maison de la Culture qui s'appelle Black Lights, où on retrouve Mathilde Monnier. Ça va dénoncer le sexisme ordinaire. C'est vraiment une lutte par le mouvement. C'est plein de sororité, c'est plein de rage incendiaire. Et on vous invite du coup à aller voir ça. Et vous aurez la chance aussi d'écouter une petite chronique vendredi sur Black Lights. C'est déjà la fin de Fréquence Féministe, épisode 3. On se retrouve demain. pour une nouvelle émission, l'épisode 4.
Déjà la fin, quasiment.
Ça va, Léo, pas trop en burn-out ?
Non, ça va, petit à petit, on se met quand même dans le bain du festival et j'ai quand même hâte aussi de découvrir d'autres choses. Je vous prépare d'ailleurs une chronique, un petit happening, vendredi sur la pièce de théâtre, en tout cas de Nage Libre. Donc, vous pourrez découvrir ce vendredi.
On a très hâte de voir ta performance, ton happening.
On s'attend à quelque chose d'incroyable, hein. On te prévient tout de suite. Hein.
Oui, ce sera quelque chose d'incroyable, mais surtout quelque chose de, je l'espère en tout cas, d'émouvant. J'irai le voir, donc le spectacle...
Jeudi, à la séance de jeudi.
Jeudi soir, exactement.
Eh bien, c'est parfait. Sur ce, moi, je vous dis à demain.
Eh bien oui, parce que Fréquence Féministe...
Fréquence Féministe.
C'est tous les jours.
Et je pense qu'on peut terminer sur...
Fréquence Féministe.
À demain.
À demain.
Depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange, tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes.
Je suis gloutonne comme Colette, souillon comme Marie Curie, collabo comme Anne de Bretagne. Je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc, mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.
Fréquence féministe.
Féministe.
Mais peut-être après tout, n'aimez-vous pas les femmes.